Maintenant, je vais passer la parole à Sarah Van Oxen, c'est ça qui la prononce de ton nom? Van Oxen? Merci, merci d'être venue. Je suis très contente que tu es là avec nous. Donc, Sarah Van Oxen est juriste, enseignante-chercheuse, maîtresse des conférences en droit et de l'environnement à Nice et à la ANRA. Après des études en droit et en philosophie à l'Université Paris-1 et à l'HSS, elle soutient une thèse intitulée « Les choses saisies par les propriétés ». Depuis son recrutement à l'UNIS, elle poursuit des recherches à la frontière du droit et des biens de l'environnement. Donc, on a eu un très bon échange chez Skype sur les droits de la nature et c'était un moment très amusant pour nous. Donc, Sarah, elle va parler sur reconnaître des droits aux choses de la nature. Donc, Sarah, je te donne la parole.
Alors, merci. Je voulais peut-être juste faire la transition avec les deux articles qui ont été présentés juste auparavant. Alors malheureusement, je ne me rappelle plus du terme, mais je voulais juste dire que depuis la loi du 8 août 2016 sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, on ne parle plus d'animaux nuisibles. On a changé le terme précisément parce que l'on considérait que c'était marqué par... une sorte d'anthropomorphisme, enfin en tout cas c'est présenté comme tel, mais malheureusement j'ai plus le...
Juste parce que c'est les prédateurs. Je m'appuie sur les représentations en fait, des gens, et dans l'esprit des gens c'est encore très très fort en fait.
Oui, mais juste, enfin c'est très très fort, je voulais juste dire que ça avait justement fait l'objet de controverses au Parlement, et que du coup on avait carrément changé le terme, on ne parle plus d'animaux nuisibles. Il me semble que c'est le terme déprédateur qui a été choisi à la place. Et puis je voulais aussi dire ce que cela m'avait évoqué. Le premier texte en fait qui est relatif au Boudrag, je me trompe pas, Boudrag, voilà, sur le massif des morts, ça m'a évoqué les procès des animaux qui étaient menés au Moyen-Âge, ou bien contre des mammifères un cochon, et que l'on mettait à mort alors parce qu'il avait par exemple tué un enfant dans un village, ou bien qui était mené, et là c'est vraiment directement le lien avec les insectes, contre des insectes ravageurs des cultures. Et on a certaines décisions de justice dans lesquelles on va attribuer des territoires aux insectes précisément pour éviter qu'ils ravagent les cultures. Alors je ne dis pas que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, mais on voit des villageois qui vont acheter un manoir ou un autre bâtiment qui sera destiné, affecté à l'usage des insectes. Et quant au deuxième article qui a été présenté, qui est donc relatif aux insectes, je dirais de manière très générale, en Amazonie, ça m'évoque le fait que j'avais dû travailler sur des moustiques génétiquement modifiés, et que se posait la question de savoir comment on devait appliquer, en France ou non, et en Europe de manière plus générale, voire au niveau international, le protocole de Nagoya qui, à son article 8J, je parle de l'article 8J de la Convention sur la diversité biologique, mais le protocole de Nagoya vient le compléter, qui nous oblige à respecter les modes de vie des populations qui sont reconnues comme préservant la diversité biologique. Et donc la question était de savoir, mais est-ce qu'il y a des pratiques, des savoir-faire relatifs aux moustiques qui nous obligeraient à penser autrement les moustiques génétiquement modifiés. Les moustiques génétiquement modifiés l'étant pour protéger, en fait, pour nous protéger, nous, de maladies, parce que les moustiques sont vecteurs, certains en tout cas, certaines espèces de maladies. Et donc on s'était posé la question de savoir, qu'ont les anthropologues à nous dire des savoir-faire liés aux moustiques, et est-ce que les populations, par exemple, amérindiennes, accepteraient les moustiques génétiquement modifiés, ou au contraire, les verraient comme des sortes de fantômes, ou je ne sais pas quel djinn, ou je ne sais pas quel terme serait le plus adéquat. Et en fait, moi, j'ai fait quelques recherches, et tout ce que j'ai trouvé, c'est que les anthropologues nous disaient qu'au final, même dans les populations animistes, eh bien, les insectes n'étaient pas en fait reconnus comme étant doués d'une d'une âme ou animée. Et donc, en fait, c'est votre article, il m'a en fait montré qu'il n'en était rien et qu'en définitive, il y a peut-être un travail à mener justement contre ces insectes qui sont encore dits donc nuisibles, à savoir les moustiques, enfin en particulier les moustiques qui sont vecteurs des maladies, qui sont considérés comme le premier ennemi de l'homme, justement. Je ne sais pas si vous auriez quelque chose.
Je suis tombé sur une référence où vous disiez justement les moustiques ponctionnent, ils prennent du sang. Donc ils prennent quelque part de l'énergie vitale, alors que les fourmis, elles, en donnent en quelque sorte. Donc il y a l'effet inverse. Mais les insectes, ils sont vraiment utilisés en fait, ils prennent ou ils donnent. Donc ils sont pas, on peut difficilement les considérer comme des sujets en fait par rapport à d'autres gros animaux.
Donc voilà. Ça serait assez justifié finalement ce que j'avais lu, parce que finalement ça invitait à ne pas respecter du tout le moustique, alors que moi justement je me posais la question du droit des animaux et en particulier du droit des droits des moustiques éventuels à respecter si on se plaçait dans le, par exemple d'un point de vue amérindien. Bon, enfin en tout cas je voulais donc vous parler effectivement. Du droit des choses de la nature, en particulier, pourquoi pas, des animaux, des végétaux, et des insectes ou des champignons. Alors, juste pour replacer mes recherches actuelles, c'est un travail qui est en cours, je travaille sur l'interaction entre droit de l'environnement, droit des biens, et à la frontière, donc, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, de l'anthropologie du droit ou de la philosophie du droit. Et je me demande, plus précisément aujourd'hui, si certaines innovations du droit de l'environnement ne nous mènent pas au-delà de ce que l'on peut appeler, pour reprendre la catégorie de Philippe Descola, le naturalisme, une forme de naturalisme juridique, ou pour parler de manière plus générale, une conception occidentale moderne du droit. Donc je m'intéresse à différentes innovations, par exemple dans la loi du 8 août 2016 que j'ai précitée, par exemple le mécanisme de compensation écologique, dans quelle mesure cela s'ancre dans le libéralisme économique ou au contraire, dans quelle mesure cela nous permet de dépasser la conception juridique occidentale moderne. Mais pour l'heure, pour aujourd'hui, je voudrais simplement vous parler du droit des servitudes comme possible moyen de reconnaître des droits à la nature, plus précisément aux choses de la nature, reconnaître des droits aux forêts, aux arbres en particulier, aux fleuves, aux pâturages, et de manière plus générale, on va le voir, au fond de terre. Donc la question que je me pose en fait, c'est de savoir si, pour me replacer, pour réutiliser le vocabulaire qu'a utilisé aujourd'hui, est-ce qu'on peut lire notre droit actuel autrement que de manière moderne ou naturaliste? Est-ce qu'on peut le voir de manière, le lire d'un point de vue presque animiste, en en faisant ressortir l'animisme? Mais alors là, j'utilise le mot animisme d'une façon extrêmement générale et sans cadrer avec la définition plus précise, par exemple, qu'en donnerait Philippe Descola. Alors, pourquoi les servitudes comme mode d'attribution possible de droit aux choses de la nature? Alors, je vous propose non pas de partir du plateau, de l'Amérique du Sud, en particulier de l'Amazonie, comme cela a été fait, mais de la France. Du massif central en France et plus précisément encore du plateau Ardéchois et de la commune de Sagne et Goudoulet. Dans la commune de Sagne et Goudoulet, sur le plateau Ardéchois, on a en effet deux sous-communes, pourrait-on dire, Sagne et de l'autre côté de la rivière, le Goudoulet. Et le Goudoulet est reconnu comme un village qui a la propriété collective de pâturage, de forêt, de différents droits de cueillette, de chasse, etc. Et on considère alors, ce sont les termes de la loi, que le Goudoulet est une section de commune, si vous voulez, une collectivité territoriale infracommunale, qui serait en dessous de la commune. En tout cas, voilà, une communauté d'habitants qui est reconnue avoir des droits sur ce que l'on appelle plus communément des communaux, et ce que l'on appellerait plus précisément des sectionaux. Et ce qui m'a beaucoup amusée et beaucoup intéressée, à vrai dire, au Goudoulet, c'est qu'au contraire des autres sections de communes dans lesquelles j'ai pu me déplacer en France, que ce soit en Margeride, sur le plateau de Millevaches, ou bien encore dans d'autres communes du Massif central, c'est que les gens m'ont dit que, en fait, les droits sur les communaux, c'est-à-dire les droits sur les forêts collectives de village ou de pâturage collectif du village, etc., n'appartenaient pas tant à la communauté des habitants, mais appartenaient aux bâtiments, appartenaient aux maisons, appartenaient aux murs, appartenaient aux fonds de terre, et plus précisément aux corps de ferme originels. C'est-à-dire que aujourd'hui même, au Goudoulet, sur le plateau Ardéchois, il y a des gens qui vous disent que la forêt communale, ou plus précisément sectionnale, pour en rester à cet exemple, n'appartient pas, n'est pas la propriété d'êtres humains, d'une communauté d'êtres humains, mais appartient à des fonds de terre, autrement dit, à ce que l'on appelle en droit des choses. Donc, tout se passe comme si les gens considéraient que c'était non pas des humains, mais des non-humains, plus précisément les fonds de terre, les corps de ferme, les murs, les lieux même, les milieux donc, qui étaient propriétaires de droit. Évidemment, on peut penser que c'est complètement anecdotique, mais si l'on lit un petit peu d'histoire du droit, et en particulier l'histoire médiévale du droit, on s'aperçoit que la chose apparaît comme étant assez communément partagée. Par exemple, le juriste Yann Thomas, spécialiste non même pas du droit médiéval, mais de droit romain, nous dit qu'il était fort courant, durant l'Antiquité, que des choses sacrées, en particulier des temples, soient propriétaires, eux, les temples eux-mêmes, donc des non-humains, de droit. Et puis on a aussi Emmanuel Leconte, qui est un historien donc contemporain médiéval du droit, qui lui aussi écrit que les cités médiévales du XIIe siècle, notamment en Italie, mais aussi en France pour certaines d'entre elles, étaient propriétaires des communaux, des droits sur les forêts, les pâturages, etc. Et puis on a aussi Alice Ingold, une historienne du droit aussi contemporaine, qui travaille sur les associations territoriales de l'eau, et qui dit qu'en définitive, dans les villages qui comprennent des mécanismes collectifs d'irrigation des terres, des cultures, eh bien, les véritables communiers, c'est-à-dire les véritables, je le dis en d'autres termes, les véritables ayants droit, les véritables propriétaires de droit, ce ne sont pas tant les personnes, au sens des êtres humains, mais ce sont les terres elles-mêmes. Les communiers sont les terres elles-mêmes. Donc, ce sont les terres qui ont des droits. Et donc, je me suis demandé si c'était là, en quelque sorte, de l'histoire du droit. Histoire du droit passant certes de l'antiquité du droit romain jusqu'à l'histoire médiévale, 12e siècle notamment, et puis jusqu'au 19e siècle, puisque les travaux d'Alice Ingold touchent au 19e siècle, ou si c'était encore quelque chose qui avait un sens pour aujourd'hui. Et donc je me suis demandé quel est le mécanisme juridique, la notion juridique qui correspond à cette idée selon laquelle des fonds de terre seraient propriétaires d'autres fonds de terre. Ce mécanisme qui permet de traduire le fait que des communaux, des forêts, des pâturages communaux appartiennent à d'autres terres, voire à des bâtiments. Et en fait, on a dans notre code civil, donc c'est le droit commun, c'est l'ouvrage de référence, si vous voulez, c'est la source principale de notre droit, en tout cas pour ceux que l'on appelle les privatistes, dans le code civil lui-même, le code Napoléon, qui date de 1804, eh bien, nous avons plusieurs dizaines d'articles qui intéressent les servitudes. Et qu'est-ce qu'une servitude ? Eh bien, une servitude, c'est précisément une charge qui pèse sur un fonds de terre au profit d'un autre fonds de terre. Donc, une servitude, c'est véritablement, si vous voulez, un droit de créance qu'aurait un fonds de terre vis-à-vis d'un autre fonds de terre. Le Code civil utilise le terme « héritage », mais cela signifie « fonds de terre ». Donc vous avez une terre qui est mise au service d'une autre terre, une terre qui est créancière d'un service, et une autre terre qui est débitrice de ce service. Et donc vous avez véritablement une terre qui est propriétaire d'un droit de créance, ou d'un droit d'avoir une prestation de service rendue par une autre terre. Concrètement, à quoi ça correspond ? Ça peut correspondre à une servitude, par exemple, de passage. Imaginez que vous ayez maison qui soit enclavée, que vous n'ayez pas accès directement à la voie publique, vous avez le droit de passer par le fond de votre voisin, par le fond de terre de votre voisin. Servitude de passage.